chronique de Canal Académie.
On retrouve Jacques-Louis Binet, correspondant de l'Académie des Beaux-Arts.
Donc nous parlons aujourd'hui de l'impressionnisme et de la mode. Il faut en parler très rapidement puisque cette exposition qui a lieu à Orsay se termine le 20 janvier pour ensuite être présentée à Chicago et avant, je crois, à New York. Voilà. Pourquoi j'ai choisi ce sujet ? Parce qu'elle correspond à une optique du musée d'Orsay. Et cette optique est très bien définie par le conservateur actuel que vous connaissez, qui s'appelle Guy Cogeval. Voilà ce qu'il écrit pour introduire l'exposition. « Je crois beaucoup à l'impureté. Je ne crois pas à l'art pur. Je ne crois pas à la peinture pure. Je ne crois pas à la peinture qui ne s'explique que par elle-même. Je crois qu'il faut toujours faire appel aux autres sciences annexes, à la connaissance des autres métiers, aux autres savoirs, pour enrichir l'histoire de l'art. » Voilà ce que dit Guy Cogeval, et ça correspond à ce qui a toujours été dit. J'étais un peu contre à la création d'Orsay. Dès sa création, le président de la République de l'époque voulait qu'on introduise en même temps l'histoire en général. Donc il y a un trajet qui est très bien défini, qu'on peut suivre très facilement, avec deux thèmes. Premièrement, la peinture impressionniste, et deuxièmement, la mode de l'époque. Eh bien, je voudrais, sans choquer les organisateurs, qu'on suive un autre parcours. Parce que ce qui m'intéresse à Orsay, c'est pas du tout la mode. Ce qui m'intéresse à Orsay, c'est l'impressionnisme, c'est la peinture. C'est le fait que le spectateur qui vient pour la première fois doit voir de la belle peinture, et rajoutant d'autres peintures qui n'appartiennent pas à la bonne peinture, mais plutôt à la peinture de l'époque, je crois qu'on introduit une certaine impureté et que le spectateur qui n'est pas tellement au courant peut confondre l'un et l'autre. Pour commencer, un tableau superbe, parce qu'il y a des tableaux exceptionnels et qui viennent souvent de loin, donc vous ne pourrez plus revoir à Orsay. Pour commencer, Manet. Ensuite, on parlera de Renoir, ensuite on parlera de Degas, et ensuite on parlera d'une sorte de triomphe de Monet. Manet, c'est Nana. Nana, c'est un tableau qui appartient maintenant à Hombourg, qui a été fait en 1877 et qui a beaucoup choqué l'époque, puisqu'il a été refusé par le salon de l'époque. Et Valéry Steele, qui a écrit le catalogue, décrit le tableau. Corset satin bleu, jupon fin blanc, bas de soie bleue, escarpins à talons haute portée par l'actrice Henriette Hauser dans la loge où un admirateur, sans doute un amant, est venu la rejoindre. Considérée comme une offense à la morale publique, Nana est refusée au salon de 1877 et comparée à l'Olympia, dont il devient le pendant, comme l'Olympia exposée en 1805, qui n'était pas tout à fait nue puisqu'elle portait boucles d'oreilles, bracelets, médaillons, accrochés à un ruban autour du cou et mule aux pieds. Nana n'est pas tout à fait nue ni complètement dévêtue. Son corset emprisonne ses formes épanouies, telle la cuirasse esthétique du nu masculin, tandis que le satin reproduit la couleur de sa peau. Et voyez que dès l'introduction, on monte l'époque. On montre ce qu'était l'attitude des hommes vis-à-vis des actrices, le masochisme courant, et le tableau semble un peu enfermé dans ces conditions à la fois picturales, mais en même temps sociales. Et heureusement, un grand critique qu'on a complètement oublié aujourd'hui, Pierre Schneider, dans sa petite histoire de l'infini, avait repris le tableau en 2001 et montré que la jeune femme qui se poudre, qui est montrée de profil, est jusqu'aux épaules prisonnière du monde bas, c'est-à-dire du client qui la dévore des yeux, et parmi 100 intentions qui la localisent, la date avec précision, soit d'un roman de Zola, soit d'un roman d'Huysmans. Mais la nuque s'élance vers un autre monde, simple, bleu, profond, dont une barre horizontale qui est le rebord de la cheminée au cadre noir indique la frontière, et sur lequel se détache sa tête tournée vers nous, notre regard se déplaçant de bas en haut le long du corps de Nana, passe à l'arrière-plan au fond du Paris de Jules Grévy à l'intemporel. Nana, fille doublement perdue, victime des hommes dans la partie inférieure de la toile, est victime, dans la partie supérieure, du fond insondable, c'est-à-dire sa tête rousse se découpe sur un papier mural bleu clair, pas tout à fait omniprésent, puisque sur sa droite, il renonce à absorber un coin du sable où se balance un échassier. Ça veut dire qu'au fond, il y a un double tableau. Le tableau du bas, bien c'est, Orsay, tel qu'il se veut, c'est l'époque. L'époque où les seigneurs vont au théâtre, attendent les actrices et les entretiennent plus ou moins. Et puis, en haut, ben c'est la grande peinture, c'est Manet, qui redécouvre, pour montrer Nana, un nouvel espace qui n'appartenait pas à l'impressionnisme de l'époque, qui est l'espace du corset. Et il montre que la partie inférieure, c'est l'époque, la partie supérieure, c'est la tête de Nana, et la tête de Nana se détache sur ce qui n'est pas la perspective, ce qui est une profondeur abyssale, la profondeur de l'infini. Et ça, c'est essentiel. Donc, le tableau appartient à l'époque et en même temps appartient à la très grande peinture. Et c'est tout ce qu'on peut voir dans les tableaux de Manet ici présents. Avec un tableau exceptionnel qui, lui, vient de Stockholm, qui est la Parisienne. La Parisienne, c'est une grande femme noire qui ne repose sur rien. Et ça, on l'a dit à propos du Fifre de Manet, on ne l'a pas beaucoup dit à propos de la Parisienne. Elle est là, mais il n'y a pas de fond, on ne peut pas distinguer derrière elle le plancher et le fond. Tout ça s'est confondu dans un espace, et c'est de nouveau l'espace de l'infini. Et puis, le tableau génial qu'est le balcon, avec le même problème, derrière Berthe Morisot, eh bien, il y a des noirs, et ces des noirs ne sont pas des noirs, ce sont des noirs transparents, des noirs lumineux, et qu'on voit bien maintenant, depuis qu'ils sont montrés au dernier étage d'Orsay, qu'on voit bien ici, parce que le tableau est assez collé au spectateur, c'est-à-dire que derrière, il y a un nouvel espace, et qui est l'espace qui sera l'espace moderne. Ça, je crois que c'est très important, c'est la grande leçon de cette exposition. Alors, je me fiche un peu des corsets, je me fiche du nombre des corsetières, je me fiche un peu de l'industrie de la corsetterie, mais ce qui m'intéresse plus, c'est la qualité de la grande peinture. La grande peinture est là, vue par Manet, et interprétée dans un nouvel espace. Et puis, mais alors là, on retrouve l'espèce de règle assommante d'Orsay. On retrouve la règle, c'est-à-dire qu'il faut montrer à côté un mauvais tableau. Et pourquoi, j'en sais rien. Alors on monte un tableau de l'époque, Carolus Duran, très mauvais peintre de l'époque, qui reprend la même forme que le balcon, qui a pratiquement la même taille, qui est présenté de la même manière, mais qui est un mauvais tableau, puisque cette fois-ci, l'espace est très banal. Il est coupé normalement, il y a d'une part le plancher, d'une part derrière le personnage, la femme en noir, il y a une autre coupure. Elle semble, on ne sait pas ce qu'elle regarde, on ne sait pas ce qu'elle fait, elle laisse tomber un gant d'une façon un peu prétentieuse. C'est vraiment un mauvais tableau. Et je voudrais être sûr que le spectateur qui vient de voir la danse remarque que la dame au gant de Carolus Duran est une croûte, un mauvais tableau. Ça, c'est important et je crois qu'il faut le dire et le redire parce que c'est le travail des conservateurs de musées de montrer peut-être toute la peinture de l'époque, mais de montrer ce qui fait la différence entre le bon et le mauvais. Même chose pour Renoir. Renoir triomphe. Renoir triomphe dans cette peinture de la mode. Il triomphe dans Madame Charpentier, avec un tableau, là encore, exceptionnel, qui vient du Metropolitan, où Madame Charpentier est à la fois assise et un peu couchée, avec ses enfants, avec ses chiens. Et devant elle, on a envie de prendre la même position dans son salon. Peu importe la mode, peu importe la robe qu'elle porte, elle est divine, elle règne dans une atmosphère familiale et elle assume tout. Il n'y a pas de règles, elle est simplement très belle, elle est simplement très peinte. Même chose quand elle sort, il y a un autre tableau qui s'appelle « La Loge ». Autre tableau qui n'est pas français et qui appartient à Londres, donc qu'il faut voir parce qu'il va bientôt partir, eh bien, dans la loge, elle est là, elle nous regarde avec son mari, elle est vue de face, mais on voit simplement les trois quarts de son corps et ceux de son mari, Et là, de nouveau, un accord de blanc merveilleux qui tourne autour de ses yeux, qui nous regarde. Et le triomphe de Renoir se voit partout. Il y a les deux danses, qui, vous savez, sont des tableaux très très connus. Eux, ils appartiennent à Orsay, donc on peut les retrouver. Il y a la danse à la ville, c'est sans doute pas le vrai titre, et la danse à la campagne. Mais on voit cette espèce de joie de Renoir quand il peint jeune. C'est pas le Renoir âgé avec les rhumatismes. C'est le Renoir jeune qui est rempli d'enthousiasme et qui déborde de vitalité. Eh bien, ces danseurs de la ville où ils mettent en évidence la femme et le danseur de la campagne où le couple est plus montré, là encore triomphe. Et puis, il y a le Renoir qui devient alors, lui, totalement impressionniste dans la balançoire, c'est-à-dire une femme qu'on voit sur une balançoire, mais on la voit à peine, devant deux amis, mais ce qu'on voit, ce sont des taches de couleur, des taches, des points sur la robe, mais un tableau où vraiment c'est le triomphe de l'impressionnisme, c'est-à-dire de la couleur, il n'y a plus de forme, tout est pris dans la couleur, et le personnage est noyé dans la couleur. Même chose dans La femme à la voilette, où la femme est à peine vue. Alors, je veux bien qu'on monte la voilette, mais on monte surtout la beauté de la femme derrière une sorte de fil qu'est la voilette. Voilà le Renoir triomphant qui apparaît dans cette exposition. Très intéressant aussi Degas. Degas peine un peu, parce que je ne suis pas sûr que Degas aime vraiment les femmes. Degas aime le corps des femmes, il aime le corps des danseuses, il aime les muscles des danseuses. Mais il y a un tableau qui est très significatif, qui est Madame Jean Bar ou Jean Beau au miroir, c'est-à-dire une femme qui est manifestement jolie, qu'on voit de profil, et puis on la voit dans le miroir, et dans le miroir, elle est totalement déformée. Par contre, et ça montre un peu l'attitude vraie de Degas devant certaines femmes, l'exception étant bien sûr Berthe Morisot qui n'a cessé d'adorer. Et puis le très bon Degas aussi, le Degas dans les maisons de chapeaux, dans les ventes de chapeaux, où tout est dans le mouvement, et il y a un tableau de Chicago qui est superbe, où tout n'est que mouvement de la vendeuse. Il y a aussi un mouvement dans la bourse d'un homme par rapport à l'autre. Il y a un mouvement dans un arrière-plan de théâtre où deux hommes se parlent. C'est le mouvement. Et alors, la mode, c'est presque la même que la nôtre. Donc, on voit ce qui intéresse Degas, c'est le mouvement de ces hommes et de ces femmes. Et puis, triomphe, le grand triomphateur, c'est non plus c'est aussi Manet, on l'a vu, mais c'est aussi Monet. Et il peine au début, Monet. Monet, il peine quand il demande à sa femme Camille de porter une robe verte. Il y a deux tableaux, l'un vient de Brême, l'autre je ne sais plus d'où, où manifestement, il se sent pas très à l'aise, et sa femme Camille, non plus. Elle porte avec difficulté cette robe verte. Et puis, ensuite, le triomphe, alors le vrai triomphe de Monet, c'est le déjeuner sur l'herbe. Attention, c'est pas le déjeuner sur l'herbe de Manet, c'est le déjeuner sur l'herbe de Monet, quelques années plus tard. Ou alors, là encore, il y a deux tableaux qui ont été retrouvés, qui ont été réassociés, alors que je crois qu'ils avaient été coupés. Et on voit, là encore, uniquement des couleurs triomphantes. Il y a des personnages, il y a des robes, mais en réalité, ce ne sont pas des robes, ce sont des points, ce sont des taches de couleurs. C'est l'interférence de la lumière du soleil sur le sol, la lumière qui est passée à travers les arbres, c'est vraiment la couleur, le triomphe de la couleur impressionnisme. Et même chose pour un tableau qui vient de Chicago, qui est La femme à l'ombrelle, où par le jeu de la perspective, là encore, la couleur triomphe. Donc, triomphe de l'impressionnisme. Et puis, pourquoi, et toujours, ces espèces de barrières qui est l'époque, avec un peintre dont, pour des raisons que je ne connais pas, comme beaucoup les conservateurs d'Orsay, c'est-à-dire James Tissot. Et des tableaux extraordinairement conventionnels, des tableaux qui n'appartiennent pas à la bonne peinture, comme celui du club, c'est-à-dire la haute société qui est assise sur une terrasse devant la Concorde, qui maintenant doit être, je crois, l'Automobile Club, eh bien, on s'y ennuie, on n'apprend rien sur leurs habits, qui sont les mêmes que ceux d'aujourd'hui, sinon qu'ils portent tous des cravates. Ils s'ennuient beaucoup, pas d'effet de couleur, pas d'effet de perspective, pas d'effet de lumière. Un très mauvais peintre, d'ailleurs, dont on a montré là un des plus mauvais tableaux. Ça, je comprends mal pourquoi, dans cette exposition, il y a très souvent ces espèces de contre-temps qui sont ceux de l'époque, que je ne suis pas absolument sûr. Je crois qu'il y a de 5 ou 6 tableaux de Tissot. C'est beaucoup trop par rapport au nombre de tableaux de Monet et de Manet. Et puis les autres, eh bien les autres, en dehors des 4 grands qu'on a vus, c'est-à-dire Manet, Renoir, Degas et Monet, sont un peu limites. Caillebotte est un peu limite. Il est un peu limite dans ses scènes de parapluie et de pluie. Les autres peintres sont des amis, des impressionnistes, mais qui n'ont sûrement pas atteint leur niveau. Voilà ce que je voulais vous dire de cette exposition, parce qu'elle montre des tableaux exceptionnels, il faut bien le dire, exceptionnels. Je ne suis pas sûr qu'ils soient exceptionnellement mis en valeur. Et c'est ce que je reproche un peu. Alors aujourd'hui, c'était pour montrer cette époque. Ben aujourd'hui, alors ça c'est très bien montré, la mode, elle appartient à un autre monde. Elle est introduite là. Et devant les grands tableaux de Manet, devant le balcon, il y a une présentation de mode. Bon, ça, c'est la mode d'aujourd'hui. Mais en réalité, la mode d'aujourd'hui, elle n'appartient plus à la peinture. Elle appartient à la photo. Et ce sont les photographes, c'est aux photographes, à montrer à la fois la beauté de la femme, l'intérêt de la nouvelle collection, la beauté des robes, leur style. C'est tout à fait un nouveau monde. Et bien sans doute que dans une prochaine exposition, ou pourquoi pas Orsay, parce que ce sera aussi son travail, remontre ses chefs-d'œuvre de l'impressionnisme face aux photographies actuelles sur la mode. Voilà ce que je voulais dire sur cette superbe exposition. Surtout aller la voir, mais surtout travailler, lisez, regardez la qualité des tableaux les uns par rapport aux autres. Parce que le jeu d'Orsay, qui est de montrer des tableaux moyens, des tableaux médiocres, je pense que les tableaux quand même de Tissot, on sera très choqués si je le dis, mais tant pis, sont assez médiocres. Par rapport à Manet, Monet, Renoir, ne font pas le poids. Et je ne suis pas absolument sûr que le public, s'endormant un peu, ayant vu des chefs-d'œuvre, croit revoir un autre chef-d'œuvre et au fond se laisse endormir par des tableaux très moyens. Voilà ce que je voulais dire au sujet de cette très belle exposition.